Vous êtes entre les lignes, le rendez-vous littéraire d'Espace 2. Annick Chouin, Jean-Marie Félix, bonjour. Nous sommes ensemble jusqu'à midi en compagnie de Michel Laya. Soyez les bienvenus. Depuis son entrée en écriture, il y a près de 20 ans maintenant, il est l'un des auteurs romans dont chaque nouvelle parution est attendue. Il a été lauréat de plusieurs prix littéraires, dont le fameux prix des auditeurs de la Radio Suisse Romande pour son roman « Les larmes de ma mère » paru chez Zoé en 2003. Aujourd'hui, il publie toujours chez Zoé un 10e récit qui confirme son goût pour l'invention langagière, pour la complexité des relations familiales et aussi son intérêt pour les confins de la normalité. Le titre de cette dernière parution, « Deux sœurs ». Bonjour Michel Laya.
Bonjour.
Vous êtes décidément un fidèle de Entre les lignes parce qu'à chaque parution, vous faites l'effort de monter la colline de la Sala pour venir dans nos studios, évoquer votre travail d'écriture. Mais dites-moi, entre deux parutions, Michel Laya, que faites-vous de votre vie ?
Bon, d'abord, la fidélité, il faut être deux. Hein, donc,
mais nous l'entretenons activement, cette fidélité.
Je suis parfois un petit peu surpris moi-même du fait que des livres arrivent comme ça, des livres... s'enchaînent, si je puis dire, les uns après les autres. Ça me surprend parce que en même temps, je suis dans une logique où je me dis si un jour j'ai l'impression que le désir d'écriture est plus là, j'arrêterai. Je me sens pas tenu du tout de faire un 10e ou un 11e ou un 12e
livre. Vous n'avez pas de rendez-vous avec votre éditrice.
J'ai pas de rendez-vous. J'ai une éditrice qui ne fait pas de pression de ce genre-là. Mais en même temps, il faut croire que ce désir d'écriture est toujours bien présent, et tant qu'il est là, disons, je vais pas bouder mon plaisir. Et
vous enseignez toujours?
J'enseigne toujours, oui. Mmh. Ah, oui. Dans deux écoles différentes. Hein, j'enseigne un petit peu à l'Institut littéraire suisse, où je suis face à des gens qui rêvent de devenir écrivains et qui parfois le sont déjà un petit peu.
Mais on lit leurs livres, je pense notamment à Antoinette Richner ou Elisabeth Jobin.
Qui était chez vous il n'y a pas longtemps. Bien sûr. Voilà, ouais. Et puis il y aura une bonne surprise, je crois encore, avec le troisième francophone qui a fini cette école, qui s'appelle Julien Marais. Et puis à part ça, j'enseigne aussi dans une école professionnelle commerciale. Donc à des gens qui...
Vous diversifiez les activités.
Je diversifie et je me sens bien utile dans cette école-là.
Alors je l'ai dit, Michel Laya, votre dernier récit qui paraît chez Zoé est intitulé « Deux sœurs ». Donc deux sœurs, au préalable il y a eu « Les larmes de ma mère », ensuite « Le nom des pères »,« Les légataires ». Ces titres que vous avez donnés à vos écrits semblent témoigner quand même d'un intérêt assez constant pour les liens du sang. La cellule familiale pour vous est un terrain propice à l'imaginaire ?
C'est jamais un choix, c'est jamais décidé, mais c'est vrai que j'ai des espèces d'obsessions comme ça, appelons-les ainsi, qui reviennent. Et puis non seulement dans plusieurs livres, il faudrait que je tire une fois ça au clair, quoi. Il peut y avoir un père, comme c'est le cas ici, mais souvent les pères finissent à l'asile.
Il y a aussi une mère.
Il y a aussi une mère.
Mais enfin,
le père finit à l'asile. L'asile psychiatrique est relativement présent dans mes textes. Voilà, ça reste un lieu de tous les possibles, ça reste un lieu de tension, ça reste un lieu fort, même si en même temps, dans certaines de ces familles, la composante, on va dire, réaliste ou naturaliste est dans le fond pas très forte.
Autre constante aussi chez vous, si on connaît un peu vos récits précédents, c'est l'intérêt pour le monde de l'adolescence. Je pense notamment à La joyeuse complainte de l'idiot, qui mettait en scène des adolescents quelque peu déviants. Je pense aussi au roman précédent, Il est bon que personne ne nous voit, qui scrutait un peu ce monde de l'adolescence. C'est quelque chose qui semble nourrir un intérêt constant chez vous.
Oui, et encore une fois, et je crois que d'ailleurs c'est pour ça que j'écris, c'est-à-dire que je découvre dans le fond que je suis attaché à ces moments-là et que l'adolescence était une période qui a compté pour moi, évidemment, qui a été une période charnière. Enfin, voilà, je suis pas psychologue, mais enfin, on sait bien que c'est un moment où beaucoup de choses se jouent. C'est une période riche, c'est une période inquiétante aussi. Et puis, je crois que je suis habité en fait par ce moment-là. Et puis peut-être aussi le fait que je suis en tant que prof confronté à des gens qui sont des adolescents et voilà, j'ai le reflet de leurs soucis, de leurs questionnements, même si encore une fois il n'y a pas de transposition du tout naturaliste.
Peut-être que vos élèves en effet nourrissent votre univers imaginaire.
C'est vraisemblable.
Ouais. Bonjour Annick Chouin.
Bonjour.
Alors je crois qu'il est difficile, je le dis parce que je l'ai lu aussi ce roman de Michel Layat-Deusseur, il est difficile de résumer l'intrigue de ce récit, mais je compte sur vous quand même pour nous donner quelques indications sur ce qu'on trouve.
Oui, parce qu'en fait on a envie de parler de climat, mais ce climat, eh bien, on va le décliner tout au long de l'émission. Deusseur, vous le disiez, ce sont des héroïnes fantasques dans le récit. Elles sont toutes jeunes, donc des adolescentes, dont on ne sait pas grand-chose, Michel Layat, ni le nom, ni la couleur des cheveux, je crois, ni le corps, ni l'âge exact. Elles vivent seules. Le juge a tranché. Et c'est ainsi que vous commencez votre roman. C'est la première phrase. Le juge a tranché parce que la mère des adolescentes est partie. Les femmes partent rejoindre un homme à New York et que leur père, les hommes restent, est enfermé dans un hôpital psychiatrique où les hommes se retirent. On le verra. Un drame, alors oui, pas vraiment, car les deux jeunes filles acceptent, en tout cas, c'est ce qu'elles disent, leur sort. Page 7. Ça ira, susurrent les deux sœurs en souriant et en se demandant à quoi peut bien ressembler une assistante sociale. Elles s'arrangent donc pour contourner les quelques règles qui régissent encore leur vie. Elles sont malines. Deux sœurs et une grande maison. Elles vivent dans cette grande maison, dans une ville... Il y a une cathédrale, il y a un bois pas loin, peut-être Lausanne, par exemple, Michel Layat, peut-être.
On voit le lac.
Voilà.
Une cathédrale avec un guet, quand même, dans la tour, donc ça nous donne une indication.
Hein. Oui, mais vous savez que je suis de Genève. Et un psychiatre poète, il y a des personnages qui gravitent autour. Hein. Donc l'assistante sociale, vous l'avez compris, dans l'ordre d'apparition, je crois, un psychiatre poète, l'amoureux, et un écrivain qui a eu un prix et qui baigne dans ses phrases, et pire encore, Michel Layat, ses mots baignent dans sa salive. Donc, au centre de ce récit très rythmé, il est sonore, mais il est, on va le voir aussi, visuel. Deux sœurs sautillantes, malicieuses. Deux sœurs dont le sourire peut devenir, c'est en tout cas la lecture que j'en ai faite, grinçant. J'imaginais même terrifiant, on en reparlera, peut-être. Alors, d'abord, pourquoi vous n'en avez pas fait des jumelles? C'est une des indications que vous nous donnez. Vous dites, elles ont à peine une année d'écart, le temps de les faire, j'imagine. Pourquoi pas des jumelles? C'est comme ça qu'on les imagine.
Oui. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est un monde qui me fascine, le monde des jumeaux et des jumelles. Mais c'est un monde que je connais assez mal. Et puis, j'aurais vraiment trop peur de dire des bêtises. Ça a quelque chose de fascinant. Donc, dans le fond, de créer ce petit décalage. Et puis, peut-être pas jumelles non plus parce que elles sont très fusionnelles, hein, les deux sœurs. Elles s'entendent extraordinairement bien. Elles sont presque toujours d'accord sur tout.
Hein, même sauf
si,
une fois.
Sauf une. Oui, et puis on comprend qu'elles ont quand même quelques différences. Mais enfin, c'est très peu évoqué dans le texte.
Mais on n'arrive jamais à les distinguer l'une de l'autre.
Exactement.
Elles forment un corps unique.
Hein. Exactement. Donc, il y a presque quelque chose de monstrueux dans cette espèce de symbiose. Et puis, surtout, ça va, alors là, on parlait de l'adolescence tout à l'heure, mais ça va rebrousse-poil de ce qu'est normalement l'adolescence, c'est-à-dire je m'affirme contre l'autre, je me construis contre l'autre. Et dans le fond, là, ça ne se passe pas du tout de cette manière. Donc, on est dans ce fusionnel, alors même qu'elles ne sont pas jumelles.
Annick ?
Oui.
Ah bon, très bien. Alors
voilà. Ou non, comme vous voulez. Non, j'avais envie de faire entendre le texte, justement,
très bien.
Jean-Marie.
Justement, Michel Layat, je parlais tout à l'heure de l'inventivité de votre prose langagière. On va s'en rendre compte tout de suite avec un premier passage de Deux Sœurs. C'est un passage que vous avez choisi, Annick.
Donc, je l'ai dit, elles vivent dans une ville moyenne et dans une maison entourée du jardin. On pousse la porte.
Et c'est Guillaume Prin, notre lecteur du jour, qui va donner ce texte en lecture.
Le jardin n'a jamais rien eu d'un jardin aménagé. Pas de petites fleurs d'élevage sages et bien dressées, pas de plates-bandes circonscrites, juste quelques coquelicots et de fragiles bleuets qui s'entêtent à revenir. Pas de buissons taillés, pas de pelouses tondues, pas de bancs ou de barbecue, pas de jeux de jardin, pas de meubles de jardin, pas de haies, pas de maisons de jardin, pas de tonnelles et pas de gloriettes non plus. Sa seule gloire, c'est sa sauvagerie. L'herbe pousse, et là où on ne l'a pas piétinée, à la fin de l'été, on la fauche. Les deux sœurs ont toujours su faucher l'herbe. Leur père dit que la cadence les habite, comme une richesse qui est là, en elles, une richesse qui peut-être ne s'apprend pas. Les deux sœurs n'ont pas souvenir de quand elles ont appris à faucher l'herbe. Aussi loin que leur mémoire peut remonter, elles ont toujours su chanter, danser, faucher, parler de la bonne voix, sourire de la bonne bouche, sentir le danger, déglutir et éructer, grimper aux arbres, mentir et sauter, repérer les sales types, traverser les forêts et les rivières, blanchir les ossements, agrandir le monde, atteindre les cachettes, creuser leurs joues, jouir en silence, faire la révérence, oublier les peines, varier les voluptés, se blottir dans le feuillage des arbres, accepter les choses comme elles sont, ne pas geindre, ne pas rechigner. Quand l'herbe est haute, les deux sœurs se promènent et se perdent dedans, comme deux champis. Le père leur a enseigné l'usage des mots anciens. Les deux sœurs n'inventent jamais de mots. Entre elles, elles utilisent parfois les vieux mots que personne ne connaît, comme une langue secrète qui n'a rien de secret. Le matin, les deux sœurs aiment fouler l'herbe pour sentir la rosée et pour se rappeler que l'herbe existe. L'herbe est de bonne compagnie. Celle de l'écorce des arbres aussi. Et celle de la brise aussi. Comme compagnie, les deux sœurs ne seraient pas contre de placer l'herbe parmi les plus intéressantes. Et quand elles ont un secret à confier, c'est d'abord à l'herbe qu'elles le confient. Chaque matin, comme un début nouveau, les deux sœurs fleurissent parmi l'herbe et ne prétendent à rien d'autre, sauf peut-être à tournicoter quelques brins. Les vapeurs de la terre ont le goût d'un monde qui commence, une révolution.
Merci Guillaume Prin pour cette lecture de deux pages de Deux Sœurs, dernier récit signé Michel Laya qui paraît chez Zoé. Ce qui m'a frappé à la lecture déjà, la lecture intérieure Michel Laya, et d'autant plus en entendant ce texte proféré à haute voix, c'est la fraîcheur de votre prose, un peu comme une rosée du matin qui est décrite ici. On a le sentiment d'être plongé dans un monde un peu irréel, un univers comme on les croise essentiellement dans les contes.
Oui, je crois que je dois être assez habité par le monde du conte, d'autant plus maintenant que j'ai encore une petite fille à qui il m'arrive parfois de lire des contes, et c'est vrai que c'est un univers qui me plaît, et puis en même temps sous cette cadence, sous ce rythme, sous ce côté dans le fond assez primesautier de la langue aussi, j'aime bien pouvoir glisser des petites pointes, mais sans trop s'apesantir. C'est-à-dire que par rapport au passage qu'on vient d'entendre au début, ce jardin qui est sauvage comme ça, il est sauvage, mais il est aimé par ses deux sœurs. Elles aiment la nature, elles aiment ce jardin, et c'est tout le contraire d'un jardin domestiqué. Aujourd'hui, quand vous promenez dans n'importe quel quartier de villa et que vous regardez comment sont les jardins, les gens qui y passent des heures et des heures sont tous en train de manifester leur haine de la nature et pas du tout leur amour.
Contre la sauvagerie peut-être de la nature.
Contre la sauvagerie.
Pour la domestiquer.
Cette espèce de domestication, mais qui est tellement poussée à l'extrême qu'on devient absolument terrifiante et inquiétante. Hein. J'avais entendu une fois une définition de ce qu'était une mauvaise herbe. Une mauvaise herbe, c'est une herbe dont on ne veut pas, quoi. Donc ça n'existe pas, en fait, les mauvaises herbes, ou tout est mauvaise herbe. Enfin, voilà. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Et puis aussi, peut-être, parce que dans le fond, en vous entendant, je me rends compte de tout ce qui me préoccupe dans l'écriture. Et puis l'histoire que les deux sœurs utilisent des mots qui existent, comme champis, hein. Les champis, c'est donc des enfants sauvages qui vivent dans les champs.
Votre
comme
goût
ça.
Pour les mots savants, on le retrouve dans vos romans régulièrement.
Oui,
ou anciens,
quoi. Là, c'est plutôt des mots anciens. Mais enfin, bon, j'en fais pas du tout un dada. Hein.
Ils sont
parsemés.
Parcimonie.
Et puis peut-être là, c'est aussi quelque chose qui parfois m'attriste un petit peu, mais enfin, c'est de se rendre compte que il y a à l'intérieur de la langue, à l'intérieur du français, à l'intérieur des écrivains qui ont utilisé la langue française, des langues qui sont un petit peu en train de mourir parce que dans le fond, ces langues deviennent incompréhensibles. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes d'auteurs et même des grands auteurs. Si on lit, je pense même pas à Rabelais ou à des gens qui sont très très éloignés. Je pense à des gens qui sont beaucoup moins éloignés que cela. Je sais pas, même Chateaubriand, même à la limite Proust, etc. Ça devient une langue que des gens n'arrivent plus à comprendre de part dans le fond ses constructions syntaxiques, sa richesse. Et puis là, il y a quelque chose qui me fait un peu de la peine.
Annick,
le jardin et les deux sœurs Michel Laya se ressemblent?
Si les deux sœurs sont à l'image du jardin
ou vice versa, oui.
Ou vice versa,
non, plutôt les deux sœurs à l'image du jardin.
Oui. Alors elles ont, c'est-à-dire qu'elles sont en même temps elles se plient aux codes, hein, les codes de la bienséance, les codes sociaux. Elles sont pas, c'est pas des révolutionnaires, quoi. C'est pas des rebelles qui veulent tout chambouler. Elles ont compris que il fallait accepter un certain nombre. Elles vont à l'école encore. Hein, elles ont aucune difficulté à l'école. Ça se passe bien. On s'appesantit pas là-dessus. Là, il faut remplir son pacte social,
En fait, elles sont malines.
Alors là, elles sont assez malignes. Elles ont peut-être aussi la chance d'être assez intelligentes, donc de pas avoir à souffrir de ça.
J'en sais rien. Mais c'est plus que ça, Michel Laya, parce que quand je dis qu'elles sont malignes, c'est symbolisé par la révérence. À deux ou trois reprises, oui. Très concrètement dans votre livre, ces jeunes filles font la révérence.
Elles la font très bien.
Elles la font très très bien, petite fille modèle.
Oui. Et c'est après, dire si elles ont reçu une bonne éducation.
Voilà, elles ont reçu une bonne éducation, mais elles savent évidemment comment, mais là de façon non perverse, non méchante, hein, parce qu'il y a des méchants dans le livre, mais évidemment c'est pas elle. Comment, dans le fond, elle joue de ses codes, elle joue de la révérence pour, à un moment donné, justement pouvoir ne pas avoir d'ennui là où elle pourrait en avoir.
Donc, mais le but, c'est quoi? C'est de maintenir le lien avec le monde?
Oui,
qu'elles sont pas en train de s'échapper de ce monde.
Non.
C'est intéressant. On est à la frontière quand même d'une certaine folie. Jean-Marie parlait d'un conte. Ça peut être une fable. Elles sont quand même proches de la sortie.
C'est-à-dire que pour pouvoir, dans le fond, peut-être qu'elles, je sais pas, on est en train de parler de personnages de papier en même temps, hein, mais disons que pour pouvoir peut-être maintenir le monde un peu à l'écart dans lequel elles sont, il faudrait pas qu'elles se mettent à dos tout cet univers social. Donc elles sont suffisamment malignes, pour reprendre votre terme, pour évidemment éviter d'être mis au banc de cette société.
Personnages papier. Alors je vois l'auteur qui me dit tout de suite, ne psychologisez pas sur mes personnages. Ok. Mais quand même. N'était pas, Jean-Marie. La frontière normalité-folie, c'est aussi une frontière qui vous intéresse.
Beaucoup,
alors, vous l'explorez avec les mots, mais vous l'explorez.
Oui, et puis là, en ce qui concerne, parce qu'il y a eu déjà quelques articles, d'ailleurs, je suis content des articles qu'il y a eu, je trouve des articles intelligents, quoi, comme ça, des gens qui non, mais c'est bien qui font des lectures attentives, quoi, tant mieux. Et puis, oui, cette frontière, normalité, alors on a dit, est-ce que les deux sœurs sont folles, est-ce qu'il y a une folie, etc. Oui, vraisemblablement. Mais moi, les plus fous, c'est ceux qui sont à l'extérieur de leur monde. C'est-à-dire, c'est précisément ce qui m'inquiète, c'est l'hypercorrection, c'est le monde de la normalité poussée à l'extrême. Parce que celui-là, il fait peur, et celui-là, il débouche sur des drames. Vous savez, le jeune homme qui a été parfait, qui a fait tout ce que ses parents lui ont dit jusqu'à 25 ans, qui a suivi les écoles qu'il fallait faire, qui a fait le sport qu'il fallait faire, qui a joué au piano comme il fallait. Puis à 25 ans, il se tire une balle, et puis tout le monde dit, mais on comprend pas.
Il faut se révolter à l'adolescence.
Je ne sais pas si c'est se révolter, mais peut-être, j'ai pas de conseils à donner. Moi, je suis ni politicien, heureusement, ni psy.
Non, mais vous êtes enseignant quand même.
Mais enseignant quand même. Non, mais en tout cas, d'être capable de se créer son monde en dehors de ce qu'on veut nous imposer comme étant le seul monde, les seules valeurs, les seules choses intéressantes. C'est quelque chose qui me trouble toujours. Le fait de pas pouvoir décider qu'est-ce qui fait événement dans mon existence. C'est pas quelque chose de simple, hein, et je dis pas que j'ai une solution miracle par rapport à ça, mais je crois, ça me paraît important d'éviter qu'on nous impose, que l'extérieur nous impose tout le temps ce qui, dans notre existence, doit faire événement.
Alors pour cela, vous vous servez des mots, vous jouez avec les mots, en tout cas ma lecture, vous jouez avec le réel à travers les mots, et il y a de l'enfance d'ailleurs dans tout ça.
Alors, il y a l'enfance, elle est présente. Il pourrait y avoir des ritournelles. Il n'y a pas de ritournelles dans ce texte, mais par contre, il y a beaucoup d'énumérations. Ce qui d'ailleurs va sur j'entends déjà certains que ça va énerver. J'accepte tout à fait que ça puisse agacer. Mais cette énumération, elle est du côté de l'enfance, hein, dire les choses. Et puis, la vertu de l'enfance, c'est de nommer les choses de la création, de les dire, de leur mettre un nom. Et dans le fond, il y a un peu de ça. Ça me fait d'ailleurs penser, je suis presque en train de citer une phrase très belle que j'ai lue il n'y a pas longtemps, parce que vous savez, il y a le 50e anniversaire de la mort de Sandrard. Et puis j'ai dû me replonger un petit peu là-dedans, parce qu'on m'a demandé d'écrire un texte. Et puis, je suis tombé dans le lotissement du ciel sur cette phrase extraordinaire où Sandrard dit « La vertu de la prière... » Mais derrière la prière, on peut entendre beaucoup de choses. C'est d'énumérer justement les choses de la création, de les nommer par leur nom dans une effusion. Hein. Et dans le fond, peut-être que cette phrase-là, si j'osais la calquer un petit peu.
Ces énumérations de vos héroïnes sont peut-être aussi des litanies. Quelque chose de la prière, allez savoir.
Justement. Vous avez entièrement raison. D'où tout à coup, c'est de la découverte de cette phrase comme ça de Sandrard que j'ai trouvée très belle. Quoi. Et j'ai l'impression, puisque Sandrard m'habite un petit peu comme ça, que peut-être il y avait une espèce ici d'écho qui se mettait en place.
Un conte, disiez-vous. Dans les contes, il y a un ogre. Et ces jeunes filles ont quelque chose de l'ogre. Ce sont quelque part, des ogresses. Elles appréhendent le monde avec leurs sens, et en particulier leur langue, et ne dites pas non. La chair des limaces, la chair des feuilles, la chair de la grenouille, la chair de la pêche, la chair du verra, la chair des roses. C'est du bout de la langue que les deux sœurs savent les reconnaître. La chair du tilleul, la chair de l'amoureux, la chair du bouc, j'en passe, etc. La chair de la terre, la chair des salamandres, leur chair. C'est avec le bout de la langue que les deux sœurs s'en régalent. Et cet amoureux qui va surgir, elles vont finir par le cuisiner au sens quasiment concret du terme. Elles lui font à manger. Et puis finalement, elle se précipite sur lui et elle le bouffe. Bon, elle le laisse en vie, mais...
Oui. Je crois que c'est plutôt un rituel.
Non, non, mais il y a de la dévoration quand même.
Il y a de la dévoration.
Il y a de l'intention de dévoration, en tout cas.
Mais on est pauvre hein, parfois avec nos sens. Il y a la vue qui est le sens tout privilégié, parfois l'ouïe aussi. Hein. Percevoir le monde, saisir le monde par l'ouïe, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que le goût, l'odorat, le toucher même, sont beaucoup, beaucoup moins présents. Et je trouve qu'on devrait des fois faire l'exercice de découvrir le monde par la langue.
Elle le découvre aussi beaucoup par le bout du nez. C'est fou ce que les odeurs sont prégnantes.
Oui, ça va ensemble.
Ouais,
hein.
Ouais.
Le goût et l'odeur, oui, absolument. Alors vous parliez tout à l'heure, Michel Laya, d'une normalité qui vous effrayait dans notre entourage quotidien. Les deux sœurs ont beau vivre dans un monde d'insouciance, elles sont quand même confrontées à cette norme sociale. Et dans ce récit, cette normalité est incarnée par une assistante sociale aux airs particulièrement sévères. Et Guillaume Prin va nous lire un passage où les deux sœurs rencontrent pour la première fois cette femme quelque peu austère. On vous écoute, Guillaume.
L'assistante sociale cherche une sonnette. Elle a un chignon sur la tête et une robe noire, qui paraît trop chaude. Oreilles et front sont bien dégagés. Les deux sœurs la voient, qui n'osent franchir le portail. Une tracasserie. Sa tête s'agite et elle pénètre à reculons dans le jardin. Les orties ne sont pas des mines, ni les chardons des grenades. Les deux sœurs ne veulent pas inquiéter l'assistante sociale. Elles sortent de la maison, l'accueillent avec politesse, la politesse d'usage, lui proposent un thé, noir ou au lait, cannelle ou citron. De sa propre initiative, l'assistante sociale s'enfonce dans un des quatre fauteuils en velours. Elle choisit d'instinct celui qui a le moins de ressorts. On dirait une vache prisonnière d'une bassine. Parce que l'assistante sociale est beaucoup plus grosse et beaucoup plus grande que les deux sœurs, son corps comme un fût flappi, privé de force et de souplesse. L'assistante sociale réussit à se mettre droite dans le fauteuil. Elle déguste le thé avec des tas de manières, comme si elle était dans un salon de thé chic et parisien. Les deux sœurs aussi dégustent le thé avec des tas de manières. Elles lui disent regretter de ne pas avoir de Mont-Blanc à lui offrir. Comme l'assistante sociale ne comprend pas, les deux sœurs lui expliquent que le Mont-Blanc est une spécialité du salon de thé Angelina à Paris, qu'il s'agit d'une meringue recouverte de crème fouettée et de crème de marron. L'assistante sociale dit qu'elle déteste le ski, mais qu'elle adore les tartes aux pommes. Elle dit qu'elle espère pouvoir retourner bientôt à Paris pour un week-end prolongé. Les deux sœurs sont silencieuses devant le visage délavé de l'assistante sociale vêtue tout en noir. Elle a des lèvres qui n'ont rien de vorace. Elle a une nuque qui n'a rien de sensuel. L'assistante sociale sort de sa veste un petit carnet. Elle veut voir la cuisine, le frigidaire, le garde-manger, la chambre à coucher, le lit, les armoires, les toilettes, le linge. Elle veut aussi voir les factures, la cave et les affaires d'école. Elle a perdu son fond de timidité. L'assistante sociale s'est retranchée dans sa peau d'assistante sociale. Les deux sœurs la laissent aller ici ou là. Elles la laissent regarder. Dans le petit carnet, l'assistante sociale prend des notes. On dirait, plus que ses jambes, que c'est le petit carnet qui l'a fait avancer à travers la maison. Après avoir vu tout ce qu'elle voulait voir, l'assistante sociale vient se replacer dans son fauteuil. Les deux sœurs lui demandent si elle a trouvé des araignées, des cancrelats, des cadavres, des charrettes en feu, des fantômes, des bacs pleins de poèmes, des toiles de fous, des fusées, des musiques inconnues, des poussières d'angoisse, des bruits de pas, des bruits de cœur, du caoutchouc multicolore, des pneus de bicyclette, une ou deux malles à trésor. L'assistante sociale regarde les deux sœurs avec un regard qui exige la raison et elle dit que d'avoir couché le miroir sur le sol représente un danger. Le redresser et le mettre dans sa position de miroir serait plus convenable. « Diable, oui, » répondent les deux sœurs. « Diable, oui, vous avez raison, raison, raison. » Puis l'assistante sociale demande d'une voix discipliné, c'est-à-dire légèrement austère et mécanique, légèrement rigide aussi. Si les deux sœurs fument des cigarettes, de la marijuana, autre chose, si elles boivent de l'alcool, vomissent, couchent avec des garçons, meurtrissent leur corps, prennent des médicaments, des drogues, des somnifères, pratiquent du sport, sortent, ont des amis, des ennemis, rêvent, font des cauchemars, pensent à demain, à leur avenir, à une profession, à leur père, à leur mère, au malheur du monde, au suicide, à la pauvreté, à vivre ailleurs, à la famine, à vendre leur maison, à l'économie, à l'écologie, si elles ont facilement mal à la tête, au ventre, au dos, aux pieds, aux vertèbres, aux derrières, aux muscles, aux os, souffrent d'un mal dont elles voudraient parler, si elles craignent la nuit, l'échec, les malfrats, l'amour, les coups, la mort. Les deux sœurs répondent par oui ou par non, presque toujours non. Elles ne veulent pas dire à l'assistante sociale qu'il y a des mots qui doivent rester enfoncés sous la terre, ou tapis dans la fente des rochers, ou couchés sous l'écume des vagues. Des mots tus et à terre, des mots qui se passent de bouche et de lèvres, qui se contrefichent d'être dits et oui. L'assistante sociale secoue la tête. Dit qu'on en reparlera, qu'il est temps qu'elle continue sa journée. Qu'elle est contente d'avoir rencontré les deux sœurs, de leur avoir parlé. Les deux sœurs serrent la main de l'assistante sociale et la regardent s'en aller. Elle a le pas énergique. Il faut poursuivre le chemin, ne pas perdre son temps. Aucun homme n'est prêt à croire que son sort égale celui d'un cloporte ou d'une vieille souche. Avant d'arriver au portail, l'assistante sociale se tord le pied. C'est tout le jardin qui a craqué. Son visage ovale et blanc se lézarde et rougit. Les deux sœurs la voient retenir un juron qu'elle, sans retenue, hurle derrière la vitre. A U et à Dia, un souffle enhardi, petite péteuse, pétroleuse, pétrisseuse de jurons, et à travers l'entier de la maison, rigolant, dégringolant l'escalier, sautant sur les fauteuils, glissant sur le parquet, explosant, les cuisses chaudes et les seins à l'air, les deux sœurs font résonner contre les parois le juron mort-né dans la gorge trop polissée de l'assistante sociale. Qui reviendra, reviendra bientôt, elle l'a promis aux deux sœurs, promis juré.
Pourquoi tu m'appelles Saint-Paul alors que je m'appelle Saint-Pierre? Pourquoi tu m'appelles ovule alors que je m'appelle ovaire? Pourquoi tu m'appelles couffron alors que je m'appelle corner? Pourquoi tu m'appelles déclaration plainte alors que je m'appelle habit poursuite judiciaire? Pourquoi tu m'appelles sécu alors que je m'appelle sicave? Pourquoi tu m'appelles la mort alors que c'est moi qui t'éclaire? Pourquoi tu m'appelles saumur alors que je m'appelle sauterne? Pourquoi tu m'appelles histoire alors que je m'appelle la guerre? Pourquoi tu m'appelles erreur alors que je suis humain? Pourquoi tu m'appelles la viande alors que je m'appelle la mer? Pourquoi tu m'appelles tricycle alors que je m'appelle trimestre? Pourquoi tu m'appelles déjà alors que je viens à peine de naître? Alors je m'appelle la merde. Pourquoi tu m'appelles Janine alors que je m'appelle Thérèse? Pourquoi tu m'appelles Sous X alors que je m'appelle Y? Pourquoi tu m'appelles Ardèche alors que je m'appelle Corrèze? Pourquoi tu m'appelles PC alors que je m'appelle Appel? Pourquoi tu m'appelles Alice alors que je m'appelle Herpès? Appelle-moi pas Mourenne, c'est la seule chose qui est. Pourquoi tu m'appelles? Voici un peu, voilà.
Comme un fil, vous aurez certainement reconnu la chanteuse Camille, une virtuose de la voix, capable de se démultiplier et de jouer avec les mots avec, je crois, autant de fraîcheur et d'inventivité que celle que Michel Laya déploie dans son dernier récit paru chez Zoé, son titre « Deux sœurs ». Michel Laya, vous êtes notre invité aujourd'hui entre les lignes sur Espace 2. Et quand on vous a demandé il y a quelques jours si vous aviez un souhait pour agrémenter notre entretien, vous avez répondu Camille. Vous sentez une proximité avec le traitement de la voix, de la langue peut-être, de ses allitérations, de ses chocs des mots avec cette chanteuse?
Oui, et puis avec toute cette espèce de fraîcheur, d'énergie, de jeu sur les mots, sur les sons. Je l'ai vu en concert il y a 2 ans à Paris. C'était extraordinaire, quoi. Elle occupe l'espace. Elle a une générosité comme ça. J'aime beaucoup cette jeune fille, quoi. Et en fait, peut-être bien que mes deux sœurs, elles ont à voir avec.
Je trouve que ça résonne bien
avec ce genre de. Parce qu'elles sont contemporaines, ces deux sœurs aussi. Hein. On est aujourd'hui. Hein. On n'est pas, je ne sais pas à quelle époque. Et à un moment donné, j'avais elles font le ménage dans la maison comme ça, et j'avais mis quelques noms de musiciens, enfin de comme ça de musique, et je disais elles font le ménage en écoutant, et j'avais mis en écoutant Camille, en écoutant Cathy Berberian, là, c'est plus ancien, chantant les Beatles, hein, donc des choses
ça
un
vous
petit
pouvez
peu...
plus parce que Jean-Michel Olivier l'a fait la référence à la musique.
Ah bon, d'accord,
oui, dans son dernier livre, Nègre. Oui.
Alors voilà quoi, donc Camille, oui, très bien.
Je relève une phrase dans un ancien roman de 2001, Les Légataires, c'est le fils, je crois, qui dit « Sous la langue, j'ai des mots tapis, je les sais là, au chaud, qui vivent à mes dépens. » C'est aussi quelque chose que vous vivez un peu, ces mots qui surgissent.
Oui, et puis ça fait depuis que j'écris, en fait, qu'il y a un peu cette tension entre ce qu'on va dire, ce qu'on va pas dire, entre est-ce que c'est le moment de lâcher. Il y a toujours je suis habité par des phrases, hein, par des mots, des phrases qui tournent comme ça dans la tête, qui sont parfois un petit peu obsédantes, et puis des fois on sent que là il faut lâcher, il faut y aller, il faut les laisser couler, laisser partir. Et puis des fois je retiens aussi, hein, je joue un rôle de barrage comme ça, parce que oui, je me souviens, j'avais une phrase un peu terrible auquel j'ai cru un certain temps. Je sais plus qui a dit les histoires arrivent à ceux qui savent les raconter. Autrement dit, si on n'est pas capable de mettre des mots, c'est comme si ça n'existait pas. Et puis je me disais, bon voilà, c'est la toute-puissance du langage, ouais, c'est bien, c'est fort, c'est beau. Puis en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que c'est con cette phrase, quoi, aussi. Enfin, vous voyez, c'est une espèce de tiraillement. Évidemment qu'il y a des choses très fortes qu'on peut avoir en soi et qui sont de l'ordre du non-exprimable ou que c'est pas encore le moment de l'exprimer et tout. Donc voilà, quoi, j'entends des voix, on va dire ça comme ça, j'entends des mots, j'entends des phrases.
Vous entendez des histoires aussi, déjà toutes faites?
Non, pas tellement, non, pas des histoires, plutôt des voix, mmh. Voilà, et je crois que c'est peut-être important pour un écrivain d'entendre des voix. Je me demande si c'est pas Eri De Luca qui disait un écrivain qui n'entend pas des voix est un écrivain mort.
Et il était en prison, hein, faut dire aussi, Eri De Luca,
ouais,
longtemps.
Ouais, ouais. Alors voilà, donc il vaut mieux entendre des voix.
Ces voix, on va en reparler, ces mots, ce silence qui aussi avec les mots, tout ce que vous nous avez dit, on le retrouve dans le roman parce qu'il n'est pas à la gloire que des mots. Hein, il parle du silence. Un mot quand même sur l'assistante sociale qui est la figure nécessaire de la normalité. Bonne nouvelle, Michel Laya, c'est que la normalité se laisse subvertir par le plaisir.
Oui, ici, oui, elles arrivent, effectivement, ces deux sœurs à la dévoyer, on va dire ça comme ça.
Je dirais la déboutonner, en ce qui me concerne.
La déboutonner, c'est pas mal. Ouais.
Alors, attendez, je me permets. Ouais. L'assistante sociale est en train de remplir ses fiches, page 77. Les deux sœurs soulèvent la jupe de l'assistante sociale. Elle résiste un peu, mais vite cède aux chatouilles.
Voilà.
Et puis les
chatouilles vont s'érotiser et en fait elle va découvrir qu'elle a un corps, que ce corps peut être porteur de plaisir, et puis ça va même, elle va même d'une certaine manière devenir un peu légale des deux sœurs, puisque
complice.
Et puis légale parce que à la fin, elle lui casse la figure à un moment donné à l'assistante sociale parce qu'elle se plaint, parce qu'elle elle a un amant comme ça, puis ça marche pas comme elle voudrait, et puis elle ne cesse de geindre, chose que les deux sœurs détestent. Et donc elle lui casse la figure. Et j'avais un petit peu en tête le petit poème en prose de Baudelaire qui s'appelle Assommons les pauvres, oui. Où justement le narrateur, enfin disons Baudelaire comme ça, va donner de l'argent à ce pauvre, mais après lui avoir cassé la figure, et il lui dit
pour lui redonner sa fierté.
Voilà, pour lui rendre sa fierté et pour qu'il soit son égal. Et puis, il y a quelque chose de cet ordre aussi. Elle lui serre le cou, là, les deux sœurs, à l'assistante sociale. Et puis, au moment où elle sent la mort s'approcher, voilà, c'est bon. Elle a retrouvé sa fierté et elle est devenue pareille aux deux sœurs. Quoi.
Voilà donc pour l'assistante sociale. C'est vrai, un personnage essentiel, nécessaire, comme disait Annick, de deux sœurs. Mais dans votre récit, Michel Laya, il est un autre personnage important. C'est la figure du père. Un père qui réside dans un hôpital psychiatrique. Il est gagné peu à peu par une maladie qui n'est pas nommée, mais qui le prive de parole. Et là, on va entendre un passage de deux sœurs dans lequel les jeunes filles se montrent très à l'écoute de leur père. Un père qui s'éloigne peu à peu d'elles. On écoute toujours cette lecture donnée par Guillaume Prin.
Qui se douterait que parler puisse demander un tel effort? Le père des deux sœurs voudrait parler, le désir ne manque pas, mais chaque phrase coûte, chaque phrase fait mal. Il s'obstine, les mots sortent de lui comme une offrande, plus précieux qu'un diamant, plus doux que de la soie. Les mots sont peut-être ce qui restera quand il n'y aura plus de corps, quand il n'y aura que le souvenir de ces quelques paroles intactes pour dire que l'on a été, que l'on a existé. Le père caresse les cheveux de ses deux filles et dit qu'il ne faut pas être triste. Si l'espace entre lui et la parole se rétrécit, il ne faut pas être triste. Il dit « Vous êtes deux perles de petites filles. Demain n'a pas d'importance, inutile d'ajouter du poids à l'inutile. » Puis il se tait. Les deux sœurs s'avancent une fois encore dans cette même forêt qu'elles aiment tant, parce que la lumière luit entre les arbres, parce qu'un vent léger passe sur les visages, parce que la nature incompréhensible les accueille, parce que leurs pieds sont souples sur le sol amolli. Nous sommes des êtres de peu de poids, parvient à dire le père, des étrangers qui s'ignorent eux-mêmes. Et les paroles s'élèvent, partent au-dessus des arbres, s'entendent avec le soleil.
Quelques écolalies joliment chantées par Camille pour faire suite à un passage du dernier récit que Michel Laya vient de faire paraître aux éditions Zoé. Deux sœurs. En entendant ce passage, Michel Laya, je crois qu'on saisit l'importance donnée à la parole. On en a parlé en début d'entretien. C'est une parole qui se fait toujours plus rare chez le père, enfermé dans son hôpital psychiatrique, mais une parole qui acquiert pour les deux sœurs une dimension presque mystique. On parlait de prière tout à l'heure, de litanie.
Oui, alors beaucoup de choses. D'abord, peut-être par rapport à ce père, c'est vrai que je pense que ça doit faire partie des angoisses que je peux avoir. Il y a des gens qui ont très peur de perdre la vue. Moi, j'aurais très peur de perdre la possibilité de parler, de ne plus pouvoir parler. Et en fait, c'est ce qui arrive à ce père. Hein. C'est la face un peu tragique du livre, hein, comme ça. Puis en même temps, pas tout à fait, parce qu'il a une espèce de force de vie qui va aller au-delà de tout ça. Mais voilà, les mots deviennent une denrée très rare dans sa bouche. Donc effectivement, il va vers une sorte de quintessence, comme ça, des choses. Il n'y a plus que quelques mots qu'il dit à ses filles. Et surtout, on comprend que... il y a un amour qui reste là, qui reste très fort, même si elle voit peu ce père, même s'il y a plus beaucoup de paroles, et d'ailleurs c'est la même chose pour la mère, enfin dans un contexte différent, il y a cette capacité comme ça de s'aimer malgré la distance, malgré le fait qu'on soit plus proches les uns des autres. Il y a une espèce d'amour qui est très fort, qui est comme une aura qui serait toujours là. Et alors voilà, le père, c'est vrai qu'il y a cette perte des mots comme ça qui va aller jusqu'au silence, hein, en fait, puisque à la fin, il commence par un cri, hein, le père, au début du livre, il crie, hein, et ça va être le symptôme.
Un cri qui reste mystérieux. Hein.
Un cri qui reste mystérieux.
Presque primal.
Oui, parce que j'avais assez envie, en fait, que le livre commence avec une situation qui était donnée. Voilà, le père est à l'hôpital, la mère est partie. Voilà, ça démarre comme ça. Pourquoi? Comment? Donc, dans le fond, on a peu d'indications et c'est pas très important. Mais c'est vrai qu'il y a ce cri au départ. Il y a d'ailleurs plusieurs cris dans le livre, hein, qui le traversent.
Annick.
Oui, le premier cri, c'est un cri génial. C'est le cri du père, je crois, hein, c'est le premier, oui. Dans l'oreille de son patron.
Voilà.
Oh, je rêverais de ça.
Oui. Non, du patron. Oui, le patron qui est une figure dans le livre, véritablement, c'est le meilleur mot que je peux avoir, quoi, qui est la figure du salaud.
Je ne le disais pas, alors je retire.
Mais quand même, hein, lui, ça l'est parce qu'on le voit revenir après. On comprend qu'il a une usine dans laquelle il y a des jeunes femmes qui travaillent et que voilà, il y a une exploitation de cette main-d'œuvre étrangère, sans papier, etc., qui se fait de manière odieuse, quoi, avec toutes sortes de chantages. des plus dégoûtants qui soient. Et voilà, encore une fois, disons, sans s'apesantir, je suis en tout cas pas un sociologue, donc j'ai pas envie de faire un livre sur comment on peut exploiter des jeunes femmes qui viennent de pays pauvres. Mais tout à coup, en une page, en deux pages, on comprend que le chef, hein, le chef du père, c'est quelqu'un qui incarne ça. Et c'est un vrai salaud, quoi. Donc le père, effectivement, voilà, il lui crie dans l'oreille et il lui casse il lui fait exploser un tampon.
C'est un cri de saturation, mais c'est aussi un cri qui nous rappelle un tableau qui annonce la folie. Je parle de Munch.
Oui. Ah oui. Oui.
Annick.
Qui est un cri silencieux, quasiment, oui. ce tableau.
Un cri qui ne sort pas.
La perte de la parole du père, c'est la progression du récit. Parce qu'il y a une progression dans ce récit.
Oui. Clairement,
il y
a ces séquences comme ça, effectivement.
Et ça va quand même changer la vie de leurs filles, des filles.
Bah, manifestement, c'est quand même ça qui va peut-être être un élément déterminant qui fait qu'elles vont partir, hein, qu'elles vont aller ailleurs. Et puis peut-être aussi qu'elles vont donner ce tas de feuilles à l'amoureux sur lequel elles ont marqué deux sœurs, quoi, justement. Hein,
justement, tas de feuilles blanches. Qui parle ? On entend les lectures de Guillaume Prin, Michel Laya. Qui parle ? Qui est le narrateur ? À la fin, on peut se dire beaucoup de choses. Moi, je me suis dit, le narrateur, bon, c'est l'amoureux. Les filles lui lèguent un paquet de feuilles blanches et un stylo ou un crayon, je crois.
C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup évoqué l'amoureux, hein, qui est aussi un des personnages importants du livre, qui est un personnage masculin, mais justement qui est un personnage masculin, mais très féminin d'une certaine manière, et puis mais qui subit un petit peu. Hein,
alors, il marche dans leur jeu, mais il subit.
Voilà, il subit un peu, mais enfin, il consent à subir parce que
c'est quand même un rapport de domination qui s'est instauré entre les filles et lui.
Oui, oui, et lui est le dominé quand même, clairement, hein, là-dedans. Mais à la fin, peut-être qu'effectivement, il devient, on pourrait faire cette lecture, en tout cas, elle est possible, qu'il devient le détenteur de leur histoire, de leur passé à ces deux sœurs, et que ce serait lui qui leur restituerait. Et c'est tout à fait possible. Hein.
En tout cas, les sœurs veulent que ce passé soit restitué. Je n'ai pas les mots en tête, si j'arrive à ouvrir le livre. Il faut écrire un livre, parce qu'il faut écrire des livres, parce qu'il n'y a rien de plus important. On ne dit pas ça au hasard quand on est un écrivain.
Non, on ne dit pas ça au hasard. Je pense que le monde irait moins mal si tout le monde passait beaucoup de temps à écrire des livres.
Et pourtant, il y a un personnage, on le mentionnait tout à l'heure, le personnage de l'écrivain que vous maltraitez, vous, en tant qu'auteur, avec un bonheur non dissimulé.
Oui, parce que lui...
Traité d'écrivassier, encore un joli terme.
Et puis les journalistes, d'ailleurs, en même temps. C'est encore pire, non ?
C'est terrible.
Dans la complainte de l'idiot, il y avait aussi un journaliste qui était extrêmement maltraité.
Oui, c'est vrai. Je ne suis pas gentil des fois avec ces journalistes. Mais là, en plus, il écrit. Non, mais c'est par rapport peut-être à tout un pan de la littérature qu'elle a le droit d'exister. Évidemment, c'est pas ça. Mais je suis toujours un peu frappé par les écrivains qui cherchent des sujets, quoi, justement. Hein, c'est-à-dire, on observe ce qu'il y a et on va chercher.
Mais parce que les histoires ne viennent pas à eux, justement. Ouais, c'est eux qui vont vers les histoires.
Voilà, c'est ça. Et je trouve toujours, en général, ça donne des résultats qui sont pas très bons. Et là, effectivement, cet écrivain qui débarque dans cette maison, il est là en se disant, ça pourrait être un bon sujet de roman, quoi. Alors, c'est déjà foutu, hein, quand on est dans cette logique-là.
Ces filles, on l'a dit, Michel Laya, font la révérence, elles savent contourner les choses pour rester dans une certaine normalité, normalité pour que les autres les laissent tranquilles, pour que l'assistante sociale peu à peu mette son tampon sur « elles vivent bien correctement, on peut les lâcher dans la nature si j'ose dire ». Elles disent « oui, cela nous va ». Puis là aussi, il y a quand même une progression, elles se contentes de ce qu'elles ont. Elles vont chercher d'autres choses dans leur imaginaire. Leur père n'est pas là, leur mère non plus. Elles sont d'accord avec tout ça. Puis quand même, il y a une mélancolie qui perce. La mère est absente et on le sent. Il y a quelque chose de presque charnel qui leur manque. Et puis le manque du père se fait à travers la parole. Moi, j'ai lu plus loin que cela, Michel Laya. Vous dites qu'elles restent gentilles. Il y a une scène où elles se font aborder par des jeunes dans la ville parce qu'elles vont en ville, elles vont en discothèque. Enfin, elles prennent des risques insensés par rapport aux autres. Et puis, ces gars-là les embêtent beaucoup. Moi, je me suis dit, elles vont les tuer.
Les trois garçons qui les abordent.
J'étais sûre. J'étais certaine.
C'est un sentiment que je partage avec Annick.
Eh ben non.
Ben non. Non, non, non. Elle les tue pas, ces garçons. Mais... Mais bon, elles leur font comprendre quand même à quel point ils vivent bassement, quoi, et à quel point ils
Mais ça, j'ai compris, mais ce que je voulais vous demander, c'est pourquoi vous basculez pas dans votre récit. Qu'est-ce qui vous a retenu? Vous avez quand même dit qu'il y avait quelque chose de monstrueux dans leur rapport. Moi, j'ai parlé d'ogres, etc. Elles franchissent pas cette limite.
Non, parce que...
Mais elles dévorent l'amoureux, quand même. Enfin... Sur le plan métaphorique, Annick.
Oui. Et parce que je pense que quand même, c'est des êtres fondamentalement bienfaisants. Donc il y a un moment donné où elles s'arrêtent.
Moi, je suis pas sûre. À la fin, elles partent. Peut-être qu'elles cesseront d'être bienfaisantes.
Elles vont brûler la maison et elles vont aller tuer ces gars.
Annick est en train de réécrire votre livre. L'histoire est venue à elle.
Non, mais alors ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est qu'on le lit. Il y a des images qui se font. Il y a même d'autres histoires. Alors, ça vous plaît pas, ça c'est ma foi, vous nous offrez votre histoire. Il y a tout un scénario qui se fait dans très visuel, très sonore. On l'a vu avec les phrases, les mots qui s'entrechoquent, les répétitions, etc. Ça fait bouger notre imaginaire.
Ouais, c'est tout le plaisir dont peut jouir justement le lecteur.
Et ça, ce sont les mots,
la lectrice que vous avez
plus
été,
plus que
Annick.
L'histoire en elle-même.
Allez, pour le plaisir, je vous propose d'entendre une dernière lecture tirée de Sœurs. C'est un passage où les cinq sens du lecteur sont mis à contribution, justement. On vous écoute, Guillaume Prin. C'est l'extrait numéro 4, Guillaume.
Dans une poubelle en fer blanc, remplie aux trois quarts, les deux sœurs conservent une réserve de coquilles d'escargot. Elles retirent le couvercle de la poubelle et d'un mouvement ample, elles renversent toutes les coquilles sur le sol de la chambre. On dirait le bruit du ressac. La mère est entrée quelques secondes dans la maison. Les coquilles jonchent le sol et les deux sœurs se couchent parmi elles. Avec le temps, les coquilles ont perdu de leur éclat et de leur couleur, finissent par toutes se ressembler. Cela n'a aucune importance. Dans la chambre, les deux sœurs ont disposé sur le sol une vingtaine de récipients de différentes tailles et de différentes matières, vases en verre et saladiers en céramique, pots de terre et pots de fer, gobelets en plastique et gobelets en carton. Sans jamais se lever, glissant, rampant avec les doigts et avec les orteils, elles attrapent des coquilles qu'elles laissent tomber dans les récipients. Leur partition musicale, pour coquilles d'escargot, n'est jamais la même selon la vitesse à laquelle elles les ramassent, selon la hauteur depuis laquelle elles les laissent tomber. Leur chorégraphie n'est jamais la même non plus, parce qu'elles n'ont aucune préférence pour des mouvements lents ou rapides, saccadés ou harmonieux, tendues ou relâchées, et que leur façon de saisir les coquilles, de les transporter et de les lâcher sont infinies. C'est au crépuscule, quand le ciel commence à noircir, que les deux sœurs entament le rituel, sans oublier au préalable de se frotter un peu de musc derrière les oreilles. Quand nous pratiquons l'art du maniement des coquilles d'escargot, nous aimons que cela sente fort, que cela dise le désir, répètent les deux sœurs.
Deux sœurs, Michel Laya, paru donc aux éditions Zoé. Michel Laya, on a parlé de la musicalité du récit. Il n'y a pas de référence directe à la musique. Par contre, il y a des références pas du tout directes. J'ai dû chercher un peu. À l'art contemporain. Alors, par exemple, ces escargots, référence à qui?
Alors, pour les escargots, alors vous avez raison. Il y a des références à l'art contemporain parce que...
Il y en a beaucoup. Enfin, plusieurs.
Il y en a plusieurs parce que je... Bon, je n'ai pas... J'ai lu un certain nombre de livres, mais je trouve que souvent les écrivains, quand l'art contemporain est présent dans leurs livres, souvent c'est pas pour en dire du bien. Ils sont plutôt
pour brocarder.
C'est pour brocarder, etc. C'est vrai que ça fait longtemps que je visite des expositions. J'adore aller à la Biennale de Venise.
Et vous-même, vous avez tenu une galerie d'art,
voilà,
il y a quelques années.
Oui. Ça fait un moment maintenant que c'est terminé, mais effectivement, pendant une dizaine d'années, on était un petit groupe de personnes comme ça. C'était des années très très joyeuses d'ailleurs, et on a découvert beaucoup de choses. Donc l'art contemporain me nourrit beaucoup et il y a beaucoup d'artistes qui comptent. Et c'est vrai que il y a certaines manifestations que les deux sœurs peuvent avoir qui sont en écho comme ça avec des artistes ou avec certaines œuvres. Oui, il n'y en a pas énormément.
Mais on peut deviner. Par exemple, elles embarquent l'assistante sociale, l'assistante sociale, elles l'embarquent voir des vidéos, je crois. Là, moi, j'ai pensé évidemment à Pipi Lotiris. Ça, c'est même très explicite,
parce qu'elle casse les
pare-brises de voiture avec les fleurs. Là.
Oui, parce que là, je suis quasiment dans un genre qui existe depuis longtemps, qui est celui de l'ekphrasis, sauf qu'au lieu de décrire une image fixe, c'est la description d'une vidéo. Donc, Pipi Luteris n'est pas nommé, mais là, c'est vraiment la description. On pourrait la reprendre, regarder la vidéo, ça correspond. Alors, oui, il y a ça. Ça, c'est la seule. Hein. C'est une vidéo qui s'appelle « Ever is Overhaul ». Mais parfois, évidemment, c'est plus discret.
Il faut aller chercher.
Par exemple, je ne sais pas si j'ai le temps, mais je peux vous donner une. Il y a une artiste palestino-libanaise que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mena Atoum, mais qui a un travail très politique, très engagé aussi. Et elle a fait une œuvre, justement, elle a suspendu des fils de fer. Dans une pièce. Mmh. Et là, ça s'appelle impénétrable. Et là, à un moment donné, les deux sœurs font ça aussi, elles suspendent des fils de fer. Donc, moi, j'avais l'idée comme ça de transposer cette œuvre dans un contexte différent pour lui faire dire autre chose. Alors, deux, trois fois, c'est vrai que je joue avec des choses qui m'habitent et que j'aime.
Mmh. Merci Michel Layat de nous avoir offert une grande goulée d'effervescence avec ce récit, on le rappelle, paru aux éditions Zoé, son titre de sœur. Et comme vous n'êtes pas avare ni de parole ni de présence, vos lecteurs pourront vous retrouver après-demain, ce sera le mercredi 16 février à la librairie Payot à Lausanne, dès 17h30 pour une séance de signature. Et cette séance sera suivie par une lecture de deux sœurs. Est-ce que c'est vous-même qui ferez cette lecture?
Oui, je vais la faire. Ouais.
C'est un plaisir pour vous de lire votre propre prose. Quelle est la différence d'ailleurs entre lire vous-même votre prose et l'entendre dire par un comédien comme Guillaume Prin par exemple?
L'entendre par un comédien, c'est évidemment toujours ce qu'il y a de mieux, parce que c'est tout à coup de se rendre compte comment on peut mettre un autre rythme, comment quelqu'un peut l'incorporer, le texte, comment il peut se l'approprier. Et j'aime beaucoup entendre des comédiens ou des gens qui lisent le texte. Mais en même temps, moi j'aime bien lire. Il y a des écrivains qui détestent, qui supportent pas, ou je sais pas. Moi, ça me pose pas de problème. Je trouve ça plutôt sympa de lire son texte. Mais dans l'idéal, c'est d'être avec un comédien. J'ai fait quelques expériences en étant moi-même
en duo,
oui. Parce que le comédien, voilà, c'est un professionnel et tout. Moi, j'ai un autre statut. Et de passer comme ça, de changer d'un statut à l'autre, je trouve ça assez sympa. Un truc à développer, là.
Et les séances de signature, c'est une chose que vous appréciez aussi?
Là, c'est un petit peu un rituel parce que chaque fois qu'il y a un livre qui sort, il y a une séance de ce type qui a lieu. Après, bon, c'est parfois moins drôle.
Merci Michel Layat.
Merci.
Et merci à vous, auditeurs de Entre les Lignes, d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Comme toujours, vous trouverez des liens complémentaires concernant Michel Layat sur la page internet de Entre les Lignes. Pour y parvenir, vous tapez Entre les Lignes, tout attaché, .rsr.ch. Cette page vous permettra aussi de réécouter à la carte ou alors de télécharger notre entretien sur votre portable. Christophe Esseva a réalisé la mise en page de ces interlignes. Jeannine Corbeau, sa préparation en coulisses. Merci à tous les deux. Demain mardi, avec Christian Tchoka, nous recevrons Frédéric Valeton, qui a fait paraître récemment chez Olivier Moratel un roman intitulé « Mémoire d'un révolutionnaire ». Le révolutionnaire en question, c'est Frédéric César de la Harpe, un héros de l'indépendance vaudoise. Ce sera l'occasion aussi de se souvenir de l'importance de cet homme des Lumières. Bonjour Laurence Poitevaux.
Bonjour Jean-Marie
Félix. Tout à l'heure, on vous retrouve après les informations de midi aux commandes de Dardar. Qu'y a-t-il au sommaire?
On reçoit notamment le metteur en scène Christian Frédéric. Il présente sa dernière création qui s'appelle Jazz, J-A-Z. Dans deux jours, à Newtony, il sera aussi à l'Oriental de Vevey. C'est un texte de Kofi Kwaoulé. C'est un solo avec une comédienne d'origine africaine qui porte vraiment cette histoire sur un texte très, très beau, je trouve, très dense, très musical. Et puis, il y a un robot aussi qui sera sur scène, donc il nous en dira plus tout à l'heure. Et puis sinon, également tout à l'heure des midi 5 dans Dardar, on va essayer de comprendre le phénomène Michel Corbeau.
Vous écoutez Espace 2, il est midi.